Chapitre 14. Two People. Les monstres existent vraiment. Les fantômes aussi. Ils vivent en nous. Et parfois, ils gagnent. Stephen King. De fines particules multicolores dansaient dans la lumière. Les volets de bois des persiennes entr'ouvertes filtraient les rayons du soleil. Le bar à chicha ronronnait. Des arômes puissants d'oranges, de dattes et de noisettes flottaient dans la grande salle où une clientèle clairsemée tirait nonchalamment sur le narguilé ou croquait les cornes de gazelle. Alice et Gabriel se faisaient face en silence. Un jeune homme s'approcha de leur table pour leur servir de nouveau du thé à la menthe. Un service à la marocaine, en levant la théière avec application très haut au-dessus des verres pour faire se former à la surface une collerette de mousse. Les deux coudes posés sur la table, Gabriel croisa les mains sous son menton. Son visage s'était durci. L'heure des explications était venue. L'empreinte sur la seringue appartient à Eric Vaughn. Je me trompe? Comment connaissez-vous son nom? C'est lui que je traquais en Irlande. Alice planta son regard dans le sien et ne le lâcha plus des yeux. Pourquoi en Irlande? C'est une longue histoire. Il y a 10 jours, l'antenne du FBI de Boston a été alertée par la police d'État du Maine à propos d'un meurtre atypique commis dans le comté de Cumberland. C'est moi que l'on a envoyé sur la scène de crime avec mon coéquipier, l'agent spécial Thomas Craig. Qui était la victime? Demanda la flic. Elizabeth Hardy, 31 ans, une infirmière travaillant au Sebaco Cottage Hospital, retrouvée assassinée chez elle, étranglée avec un bas en nylon, devina Alice. Kane confirma d'un signe de tête. Le cœur d'Alice s'emballa, mais elle essaya de canaliser son émotion. C'était peut-être la même signature que celle de Vaughn, mais un même modus operandi ne signifiait pas forcément un même criminel. Après le meurtre, continua Kane, on a consulté sans succès les bases de données VICAP. Je ne devrais pas vous le dire, mais nos hackers ont aussi la possibilité de s'introduire dans les bases de données des polices européennes. Le VICLAS allemand, le SALVAC français. Vous plaisantez, j'espère. Ne jouez pas les effarouchés. À la guerre comme à la guerre, éluda-t-il. Bref, c'est comme ça que je suis tombé sur la série de meurtres et d'agressions commis par Eric Vaughn à Paris de novembre 2010 à novembre 2011. Et vous avez fait le lien. J'ai sollicité un rendez-vous pour en parler avec votre patronne, la directrice de la brigade criminelle. Mathilde Taillandier? Je devais la rencontrer la semaine prochaine à Paris. Mais d'abord, je me suis rendu en Irlande. La consultation des bases de données internationales m'avait signalé un autre meurtre, ayant eu lieu 8 mois plus tôt à Dublin. Même type de victime? Même signature? Mary McCarthy, 24 ans, une étudiante de 3e cycle au Trinity College, retrouvée étranglée dans sa chambre universitaire avec un collant. Et vous pensez que c'est Vaughn? C'est évident, non? Non. On a perdu la trace de Vaughn à Paris lorsqu'il vous a agressé. Depuis, c'est un fantôme. La police française n'a pas avancé d'un pouce sur l'enquête. Et alors? Je vais vous dire ce que je pense. Vaughn est un tueur caméléon, capable de changer d'identité lorsqu'il se sent menacé. Je pense qu'il a quitté Paris depuis belle lurette, qu'il a fait une halte en Irlande et qu'il se trouve à présent aux États-Unis. Tout ça parce que vous avez 2 meurtres sur les bras avec des modes opératoires a priori similaires? Parfaitement similaires, corrigea Kane. Enfin, Vaughn n'est pas le premier tueur à étrangler ses victimes avec un bas en nylon. Ne jouez pas au con, Schaeffer. Vaughn a tué toutes ses femmes avec les sous-vêtements de la précédente victime. C'est cela qui fait la spécificité de sa signature, vous le savez bien. Et votre victime de Boston, avec quoi elle a été étranglée? Un collant rose et blanc, exactement le même que celui porté par l'étudiante irlandaise le jour de sa mort. Vous vous enflammez trop vite. Votre tueur, en Irlande ou aux États-Unis, est un simple imitateur, un complice, un homme de paille, une sorte d'admirateur qui reproduit ses crimes avec minutie. Un copycat, c'est ça? On en voit tous les soirs dans les séries télé, mais en 15 ans de métier, je n'en ai jamais croisé. Ça n'existe pas dans la réalité. Bien sûr que si. Le Zodiac new-yorkais, l'affaire Hans. Il leva la main pour l'interrompre.
Des cas vieux de 30 ans
qu'on trouve dans des manuels de criminologie. Alice n'en démordait pas. Je pensais que le FBI était un peu plus rigoureux. Vous foncez toujours tête baissée dans les pièges que l'on vous tend ? Gabriel s'énerva. Écoutez, je voulais vous ménager, Alice. Mais si vous voulez une preuve irréfutable, j'en ai une à votre disposition.
Ah oui.
Vous savez quel type de bas portait la jeune Irlandaise ?
Dites-moi.
Une paire de collants de grossesse en dentelle, avec des motifs en serpentin bleu-vert. La paire que vous portiez il y a 2 ans lorsque Vaughan a failli vous tuer. Un silence. Cette révélation lui glaça l'échine. La police n'avait jamais révélé ce détail à la presse. Comment un imitateur aurait-il pu connaître la marque et l'apparence de ses collants ? Elle se massa les tempes.
Bon, ok, admettons. Quelle est votre thèse ?
Je pense que Vaughan nous a réunis pour nous défier. Et le fait de trouver une de ces empreintes me conforte dans cette analyse. Vous, d'abord. La flic française qui le connaît le mieux pour l'avoir traqué avec acharnement. Vous, dont il a tué l'enfant à naître. Vous, avec votre colère et votre haine envers lui. Moi, ensuite. L'agent du FBI chargé de l'enquête et qui a retrouvé sa trace aux États-Unis. 2 flics contre lui. 2 flics déterminés à avoir sa peau. Mais 2 flics avec leurs failles et leurs démons qui basculent tout à coup de la position du chasseur à celle de la proie. Alice considéra cette possibilité avec un mélange d'effroi et d'excitation. Cette perspective avait quelque chose d'effrayant. Que Vaughan soit ou non derrière ces meurtres, il a forcément un disciple ou un homme de paille, affirma-t-elle. Hier soir, vous étiez à Dublin et j'étais à Paris. D'une façon ou d'une autre, il a fallu nous mettre dans un avion. Et ce type n'a pas le don d'ubiquité. Je vous l'accorde. Alice se tint la tête dans les mains. L'affaire prenait une tournure inattendue qui, depuis quelques heures, faisait rejaillir des traumatismes et des souffrances contre lesquelles elle luttait pied à pied depuis des années. Une chose me chiffonne, Kane. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour me révéler votre identité ?
Parce que je me devais d'en savoir plus sur vous, sur votre implication et vos motivations. Surtout, j'avais intérêt à rassembler suffisamment d'informations pour éviter que le bureau ne me retire l'enquête. Et puis, de vous à moi, je déteste par-dessus tout être humilié. Et sur ce coup-là, je me suis fait avoir comme un bleu.
Mais pourquoi avez-vous inventé ce personnage de jazzman ?
Ça m'est venu comme ça, sur le moment. J'ai toujours aimé le jazz et Kenny, mon meilleur ami, est bien saxophoniste.
Qu'est-ce que vous proposez maintenant ?
D'abord, on passe au laboratoire d'hématologie médico-légale de l'Upper East Side pour y déposer l'échantillon de sang présent sur votre chemisier. Le FBI travaille fréquemment avec cette structure. Ils sont affreusement chers, mais ils ont un matériel et des équipes très performantes. Avec eux, on pourra avoir un profil génétique dans les 2 heures.
Bonne idée. Et ensuite ?
On rentre à Boston en bagnole, on accorde nos violons, on va voir le FBI et on leur raconte tout ce que l'on sait en priant pour qu'ils ne me dessaisissent pas de l'enquête.
Elle regarda Gabriel et constata que sa physionomie avait changé depuis qu'il s'était découvert. Le côté jovial du jazzman avait laissé la place à la gravité du flic. Un regard plus sombre, des traits plus durs, un visage figé par l'inquiétude. C'était comme s'il faisait connaissance une nouvelle fois.
« Je vous suis, » acquiesça-t-elle, « mais à une condition. Une fois à Boston, je veux être associé à l'enquête. »
Ça, ce n'est pas de mon ressort, vous le savez.
Officiellement ou officieusement, on fait équipe. Vous me donnez vos infos et je vous donne les miennes. Sinon, nos chemins se séparent ici et adieu le morceau de chemisier. C'est à prendre ou à laisser.
Gabriel sortit une cigarette du paquet entamé qu'il avait récupéré dans la Honda. Il l'alluma et en tira quelques bouffées nerveuses pour se laisser le temps de la réflexion. Alice le regardait du coin de l'œil. À présent, elle le reconnaissait enfin comme l'un des siens. Un flic monomaniaque, prêt à tout pour conserver une affaire. Un flic qui devait passer une bonne partie de ses nuits à se mettre dans la tête des criminels pour appréhender leurs motivations. Un flic pour qui arrêter les assassins avait quelque chose de sacré. Il sortit les clés de la Shelby et les posa sur la table.
« C'est d'accord.
On y va, acquiesça-t-il en écrasant sa cigarette dans une coupelle.